Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui, vous allez découvrir Ryan. Ryan, il a 16 ans, il est multidys, comme on dit, dyslexique notamment, mais pas que. Mais de cette dyslexie, de ce trouble, de cette spécificité, il en a fait une force pour créer une invention qui cartonne et qui vient en aide justement aux autres 10. Ryan, il a 16 ans, c'est l'invité d'Agathe Le Caron, et nous serons juste après avec une orthophoniste qui s'appelle Marie Poirette. C'est parti.
Faire de ses faiblesses une force. Alors ça, quand on arrive à ça, évidemment, c'est formidable. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une vraie source d'espoir. Voilà, c'est une source d'espoir pour tous les enfants légèrement, non pas différents, mais en tout cas qui ont des spécificités et qui parfois sont un peu montrés du doigt. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Alors tu as 16 ans Ryan, tu es en première, qu'est-ce que c'est que ça? STI2D, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Moi je suis trop vieille Ryan pour des trucs comme ça. C'est sciences et technologies de l'industrie à Saint-Brieuc.
Oui, c'est ça.
Ça rigole pas. Je peux te dire que moi, j'étais pas du tout dans une première comme ça. Je t'expliquerai. Alors, tu as eu de nombreux troubles 10. Donc, on peut le dire, l'école, ça a été une souffrance pour toi. Et puis, il y a un an, dans ta chambre, c'était le moment du confinement, tu as eu une idée géniale. C'est un clavier d'ordinateur en couleur pour aider les enfants comme toi ou les adolescents qui sont atteints de dyspraxie ou de dyslexie. Tu as monté ta société, voilà, avec tes parents. Eh ben, ton clavier se vend comme des petits pains, quoi. Donc, c'est vraiment une success story que tu vas nous raconter. Tu gardes pas un très, très bon souvenir de ta scolarité. Tu peux nous expliquer pourquoi?
Le problème dans ma scolarité, c'est qu'au niveau de l'écriture, j'avais du mal à écrire. C'était lent, c'était douloureux. Et donc, du coup, ce n'était pas possible réellement d'écrire pendant
les cours.
Tu n'arrivais
pas à écrire comme tes petits camarades?
Oui.
Et tes profs te disaient quoi, alors?
Bah, du coup, mes professeurs, ils me disaient qu'il fallait que j'aille en classe Ulysse.
Ah oui.
Oui.
Ouais, donc, ils te jugeaient, ils ne comprenaient pas que tu avais peut-être quelque chose de particulier qui faisait que tu n'y arrivais pas. Ils te secouaient un petit peu.
Oui, c'est ça.
Alors, en CM2, tu as été diagnostiqué dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, dyspraxique. Tu es aussi légèrement dyscalculique. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un diagnostic, ça a changé quelque chose pour toi?
Ben, ça a changé que j'ai pu avoir un ordinateur justement pour pouvoir prendre les cours. Mm-hmm. Et avec justement cet ordinateur, on a des cours d'ergothérapie.
Ouais.
Et justement, avec ces cours d'ergothérapie, en fait, la méthode qu'ils utilisent, c'est mettre des gommettes sur un clavier. Sauf que le problème, c'est que les gommettes qu'on a un peu comme en maternelle, elles s'usent très rapidement et toutes les semaines, il faut changer les gommettes.
Oui, donc ce n'était pas très pratique. En revanche, tu avais très, très mal à la main parce que comme tu avais du mal à écrire, et plus de douleur grâce à ce clavier.
Oui, justement.
Donc, c'est quand même pas mal là-dessus. Oui. Mais ce n'était pas encore génial. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... comment tu as fait, toi, en l'occurrence, pour apprendre à te servir de ce clavier? Parce qu'on se dit, il faut de la dextérité quand même pour pouvoir utiliser ce clavier. Comment tu as fait?
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais eu des cours d'ergothérapie qui avaient été donnés avec le clavier. Mmh. Et en fait, c'est là où j'ai appris zone par zone pour le clavier à taper. Et donc, du coup, c'était avec la technique, justement, avec les gommettes.
D'accord. Mais on est d'accord, ça ne te convenait pas. Alors voilà, on arrive au confinement. Ces gommettes de couleur, tu te dis, c'est quand même pas super pratique. Et là, il y a une idée qui germe dans ton cerveau de génie, de futur ingénieur. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que tu te dis?
Je me dis que je pourrais peut-être faire quelque chose de plus avancé pour le kit. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où je décide de faire un kit un peu mieux que ce qui était déjà proposé. Et donc, du coup, ici, j'avais écrit...
Alors, est-ce qu'on le voit? Sinon, je le montre moi. Ah, ouais, on le voit très bien. Super, bah voilà.
Et donc,
futur animateur télé aussi, j'ai l'impression, quand même, hein, Ryan, hein, parce que tu as les bons réflexes. Alors, explique-nous ce que c'est. Continue à nous montrer, explique-nous ce que c'est.
Donc, du coup, c'est un kit donc, avec la partie en bas où il n'y a pas les lettres pour pouvoir apprendre le clavier et la partie en haut, une fois qu'on a appris le clavier, justement pour que les professeurs et les parents puissent venir aider justement à taper au clavier. Il y a aussi des raccourcis sur le clavier pour, par exemple, un couper, copier-coller, et ainsi de suite.
Et les couleurs t'aident en quoi ?
Mais les couleurs m'aident à pouvoir positionner mes doigts de sorte à ce que je puisse me repérer plus facilement.
Ok, d'accord. Alors, ce qu'il faut dire, ce qui est rigolo, c'est que, pour parler un petit peu de ta maman, tu as commencé à avoir cette idée, tu lui montrais et à chaque fois, elle te retoquait. Elle te disait « Non, c'est pas encore assez perfectionné ».
Oui,
c'est une histoire familiale, un peu, quand même.
Oui. Il y avait mes parents qui m'aidaient, donc tous les soirs, mes parents finissaient très tard, justement, parce qu'ils m'aidaient. Il y avait mon père et moi, du coup, on était à faire des kits toute la soirée. Et c'était pas aussi perfectionné que ça, mais ça restait quand même assez bien. Et donc, du coup, à l'époque, on vendait ça à 10 euros. Mais du coup, on a été obligés de faire une entreprise, justement, pour... Parce que, par exemple, tout ce qui est impôts, ils ne sont pas...
Ah oui, ça, c'est encore une autre histoire, Ryan. Ouais. Comment est-ce que tu l'as baptisé, ta méthode ?
Donc, le kit, ici, c'est le K10.
K10, c'est toi qui as inventé ça ?
Oui.
D'accord. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on l'a un petit peu dit, ça peut être, c'est génial pour tous les enfants qui ont un problème 10, oui. Mais ça peut être aussi utilisé très facilement par les parents et par les enseignants, surtout. Donc, en fait, tu as aussi inventé un outil qui aide... Les enseignants, raconte-nous ça.
C'est les enseignants, par exemple, quand on n'a pas assez de temps ou qu'on est trop fatigué. Par exemple, les professeurs, s'ils ont besoin de corriger une faute d'orthographe, ils peuvent venir, ils n'ont pas besoin de regarder sur un clavier à côté. D'accord. Parce que justement, le problème, c'est qu'il y avait des solutions qui existaient à côté, mais c'était des claviers qui étaient vraiment grands et qui prenaient beaucoup d'espace. Et le problème, c'est que, justement, il faut éviter d'avoir trop de poids dans le cartable.
Bien sûr, bien sûr. Alors, tu as commencé à les commercialiser, en fait, au sein de l'école, c'est ça ?
Oui.
Avec des camarades 10 ?
Oui, c'est ça. En fait, il y avait des camarades qui avaient vu, justement, que j'avais apporté au lycée. Et donc, du coup, ils m'avaient demandé si je pouvais leur en fabriquer.
Alors, tu as commencé à les vendre, quand même, au bout d'un moment ?
Oui.
C'était combien ?
C'était 10 euros à l'époque. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on a été obligé de faire quelque chose d'un peu plus...
Oui, parce que comme tu es malin, Ryan, tu as mis ta méthode sur Facebook. Oui. Là, c'est allé très, très vite, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? La machine s'est emballée ?
Oui. Sur le coup, ça s'est emballé. On a eu une grande vague de commandes. Mars, il me semble que c'était mars-avril.
Oui.
Et justement, c'était une explosion de commandes. Il y avait trop de commandes. On avait un peu de mal sur le coup à avoir...
T'arrivais plus à suivre.
Voilà.
Alors, il y a aussi un moment, parce que ça ne s'arrête pas là, hein, il y a une espèce de mécène qui t'a contacté pour te dire quoi ?
Justement, il y avait la Fondation Boulanger qui nous avait contactés. Et au tout départ...
C'est quoi la Fondation Boulanger ?
La Fondation Boulanger, c'est une fondation qui a été lancée par l'entreprise Boulanger, le magasin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, ils sont venus aider. Donc au tout départ, on ne savait pas qui c'était. Et donc du coup, on a fini par appeler pour savoir qui c'était. Et donc du coup, ils nous ont recontactés.
Et ils t'ont aidé, ils t'ont donné des sous pour aider à commercialiser, c'est ça ?
Oui. Justement, il y a eu la fondation qui a demandé justement au PDG de Boulanger pour pouvoir aider à commercialiser dans les magasins. Ils nous ont aussi aidés avec le matériel.
Ils t'ont mis en contact aussi avec un imprimeur, je crois.
Oui, et ils nous ont aidés aussi pour tout ce qui était un groupe de personnes pour nous aider. Par exemple, on avait des avocats, on avait...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont professionnalisé ce que tu as fait chez toi, dans ton coin, avec l'aide de tes parents.
Oui.
Ça a été professionnalisé. Et puis après, il faut dire que vraiment, tu as galéré à l'école. Hein. Là, on n'a pas beaucoup détaillé, mais ça a été très compliqué pour toi. Et la revanche, elle est là parce que l'Éducation nationale s'en est emparée. Les enseignants aussi, tu l'as dit. Et les enseignants, plus particulièrement, de l'Académie de Nancy.
Oui, de Nancy Metz. Justement, eux, ils sont arrivés très tôt dans l'aventure. Et justement, ils avaient commandé des kits. À l'époque, on ne pouvait pas en faire autant que ce qu'ils demandaient. Donc, du coup, et on leur avait demandé d'attendre un tout petit peu. Et là, justement, une fois qu'on avait industrialisé le kit, on leur en avait proposé, justement.
Voilà. Eh ben, ouais, ben c'est formidable. Là, on parlait justement de ta revanche. Revanche puis consécration ultime, parce que quelqu'un d'assez important, hein, quand oui. même, t'a laissé un message, on regarde. Oui. Alors, le message, ben, je n'arrive pas à le lire, je vous le dis tout de suite, hein, mais je pense que vous arrivez à lire sur... Voilà, donc il parle d'un parcours très, très impressionnant à 16 ans, le fait que tu as fait preuve de beaucoup de courage, oui. hein, tu as fait de ta faiblesse une force. C'était formidable quand même de voir ce message.
Oui. Sur le coup, je ne m'y attendais pas. Au tout départ, on pensait que c'était soit peut-être un conte qui n'était pas le vrai conte, soit que ce soit une personne qui...
Un fake.
Oui, ou que ce soit une personne du président qui soit occupée. Mais justement, on a eu la confirmation justement que c'était le
c'est
président.
C'est bien lui. Bravo, Ryan. Tu le dis, hein, ce n'est pas pour l'argent que tu as fait ça. Tu as beaucoup oui. souffert de tes spécificités. Oui. Et aujourd'hui, tu fais ça vraiment pour aider les 10. C'était important oui. pour toi de le dire ce matin.
Oui. C'est vrai que je fais ça pour aider les 10. Oui.
Voilà. Donc, ce n'est pas pour faire commerce de tout ça. Qu'est-ce que tu as comme message pour conclure aux adultes, aux parents, par exemple, d'enfants 10 qui nous regardent ou justement aux enfants 10 qui en souffrent?
Que c'est pas quelque chose qui devrait être embêtant, c'est
pas une fatalité.
Oui, c'est un avantage d'une certaine façon.
Voilà. Oui, bah la preuve, hein, tu l'as prouvé ce matin. Et puis ça fait des êtres exceptionnels parce que si tu n'avais pas été 10, tu n'aurais pas eu tout ça, tu n'aurais pas eu un message du président. Oui. Donc bravo Ryan et merci d'être venu. Je sais que tu regardais beaucoup On n'est pas que les cobayes quand tu étais petit, c'est ça?
Oui.
C'était ton émission préférée?
Oui. J'aime bien regarder tous les matins.
Ah, tous les matins? Ah, tu regardais en replay?
Oui.
Tu n'avais pas le droit de regarder le soir?
Okay. Non.
Ah, c'est bien, t'as été bien élevé. Et on a le plaisir d'avoir une autre orthophoniste ce matin dans l'émission, c'est Marie Poirette. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, vous êtes orthophoniste, donc, je viens de le dire, vous êtes l'auteur d'un carnet d'activités pour les troubles alimentaires qui est destiné aux parents d'enfants de 1 à 3 ans. Voilà, alors une petite pépite, en plus, c'est pas un pavé. Donc, pour le coup, si vous avez des problèmes d'oralité, des enfants qui ont des problèmes d'oralité, c'est très, très pratique, etc. C'est en 30 activités testées et approuvées.
Voilà.
Voilà, j'espère
c'est
que je l'ai bien
c'est
vendu.
C'est ludique.
Voilà. Est-ce que vous pouvez, pour démarrer, nous expliquer ce que sont les troubles 10? Parce qu'on ne l'a pas vraiment dit avec Ryan et tout le monde ne connaît pas.
Alors en fait, désormais, on va plutôt parler de troubles spécifiques des apprentissages. Donc, c'est des troubles qui vont apparaître au cours du développement de l'enfant, avant ou lors des premiers apprentissages, et qui vont persister à l'âge adulte. Et évidemment, on va les retrouver dans différents domaines. Donc, on va avoir les troubles spécifiques du langage oral, les troubles spécifiques du langage écrit, du développement moteur.
Et parfois, il y a plusieurs troubles qui sont additionnés, comme le cas de Ryan, qui avait quand même pas mal de troubles.
Hein. Il a tout cumulé, il a eu le package.
Il a la totale Pascal, comme on dit.
On a reçu beaucoup de questions. Ce matin, on a une question très intéressante de Jessica que vous pouvez regarder en vidéo.
Les maternelles, je me posais la question si les troubles de 10 étaient héréditaires. Merci.
Ah, alors oui, effectivement, oui, ça peut se transmettre génétiquement. Si vous avez un enfant qui a des troubles spécifiques des apprentissages, eh ben, vos autres enfants sont plus susceptibles d'en développer aussi. En termes de chiffres...
C'est que nous, on en a peut-être souffert aussi alors avant.
Oui, en termes de chiffres, une personne qui a des troubles 10 a 35 à 40% de chances d'avoir un parent lui-même atteint. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore identifié de gènes spécifiques responsables de la dyslexie, donc on ne peut pas encore avoir de dépistage dyslexique, n'importe quoi, génétique. Ça commence bien.
si, je vous assure, ça commence très bien, vous inquiétez pas.
On ne peut pas encore dépister génétiquement les troubles 10, mais effectivement, ça se transmet. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont venir se combiner ou interagir, en plus des facteurs génétiques.
Une question de Louise qui vous demande, j'aimerais savoir vers quel âge peuvent se détecter ces troubles?
Bonne question aussi. Alors, plus qu'une question d'âge, on va avoir de nombreux critères diagnostiques à respecter. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'on va chercher à montrer. Il faut savoir qu'il faut pouvoir montrer beaucoup de choses pour parler de dyslexie. Et notamment, il va falloir pouvoir prouver un décalage de 18 mois minimum entre l'âge réel de l'enfant et l'âge obtenu lors des différentes épreuves. Et en plus, il faut montrer que le trouble persiste malgré la rééducation. Donc ça, forcément, ça prend du temps. Oui. En fait.
Donc, si on devait donner une sorte de moyenne... Pas avant le CP, de toute façon, CP-CE1...
Ouais, ça va être compliqué
avec
avant ça.
L'apprentissage, la lecture...
En tout cas, pour tout ce qui va être dyslexie, dysorthographie, de toute façon, il va falloir observer un décalage dans les apprentissages. Donc, il faudra commencer par apprendre.
Pas avant qu'il y ait des apprentissages.
Voilà, exactement.
Alors, Marion, vous demande, je me demandais quels sont les signes qui doivent alerter les parents concernant les troubles 10 chez un petit.
Alors, concernant les signes qui doivent alerter, on va en général chercher à voir un enfant qui semble en décalage avec les autres enfants de son âge. Un enfant qui va rester lent, qui va faire des fautes qui sont entre guillemets plus de son âge, et des fautes surtout qui sont inexplicables compte tenu du travail fourni par ailleurs. En fait.
D'accord.
C'est surtout ça. On va chercher à observer des enfants qui progressent trop peu par rapport à tous les éléments qu'on a. Et une grille d'alerte a été rédigée par la Fondation Dyslexie à destination des enseignants. Et voilà, elle est...
Donc ils sont formés à repérer, finalement.
En tout cas, cette grille-là est destinée à pouvoir repérer un petit peu. En tout cas, ça donne
aider,
des signes.
Ouais. Ouais. Voilà. Ce qui est terrible, c'est toutes les générations d'enfants. Nous, notre génération, c'était ça. Où un enfant 10, on se disait, mais il a un pet au casque. Enfin, quel est son problème ? C'était un peu ça. Et les parents devenaient fous. Et les profs n'étaient pas formés. Enfin... Il y a toute une génération d'enfants.
Je trouve que ce qui est vraiment dur et ce qui est lourd, c'est que ça leur donne l'impression d'être nul. En général, c'est ce qu'ils disent. En séance, c'est oui, mais moi, je suis nul. Je travaille autant, voire plus que les autres.
Nul ou bête.
Voilà, nul ou bête. Et moi, c'est quelque chose que je leur dis très vite, c'est qu'ils n'ont pas de moins bons résultats parce qu'ils sont nuls et au contraire. C'est-à-dire qu'on leur demande la même chose que les autres, avec une grosse difficulté de départ. C'est comme si ils avaient une course à faire, sauf qu'eux, ils ne pouvaient sauter qu'à cloche-pied. Ouais. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire dans ces cas-là, c'est normal que ce soit fatigant. On a le droit d'en avoir marre, on a le droit d'être en colère, on a le droit de trouver ça injuste parfois, mais ils peuvent aussi être très fiers d'eux, parce qu'en général, ils fournissent un travail de dingue, en fait, pour maintenir le niveau.
Et ça fait d'eux des bosseurs pour plus tard dans la vie, on peut le dire comme ça ?
Oui, moi je trouve que... Enfin, ce que j'essaie de leur dire en général aussi, c'est pour l'instant c'est difficile pour toi parce que t'es à l'école et l'école attend ça de toi. Et du coup, tu fournis plus de travail. Mais ces habitudes de travail, d'engagement et tout ça, tu les garderas. Et quand plus tard, il y aura pourquoi pas des outils adaptés, qu'à l'université, tu pourras peut-être prendre ton ordinateur ou des choses comme ça. On a des correcteurs orthographiques, on a plein de choses. Ben, ta personnalité à toi et tout ce courage dont t'as fait preuve pendant des années, tu les garderas à l'âge adulte et ce sera une force.
Alors Pierre nous dit, je suis papa d'une petite fille de 8 ans qui est multi-10. Quelle nouvelle façon d'apprendre peut-on nous conseiller pour rendre les devoirs moins douloureux ?
Là, c'est vrai que ça dépend énormément de l'enfant puisqu'ils sont tous très différents. Tout l'enjeu, justement, ça va être de trouver des astuces ou des techniques qui leur conviennent à eux, à leur manière d'apprendre. Donc ça, il faut creuser un petit peu, mais ça peut être en lien avec le visuel, avec l'auditif, ça peut être des couleurs, de la musique. Si possible, l'idéal, c'est quand ça fait sens avec les centres d'intérêt de l'enfant.
Il faut que ce soit ludique.
Ça peut rester ludique, c'est l'idéal. Et puis, concernant les devoirs, j'ai surtout envie de dire, c'est normal que ça prenne plus de temps. Laissez-leur le temps, parce que c'est plus coûteux. Et concernant le temps, on essaie aussi de contrôler le timing pour ne pas laisser les séances de travail s'éterniser, parce que c'est plus coûteux et donc c'est plus fatigant. Il ne faudrait pas laisser un épuisement s'installer à ce niveau-là.
Clémence vous demande si on peut guérir des troubles 10.
Ah, alors non. Les troubles 10 n'étant pas une maladie, mais bel et bien un handicap, il n'y a pas de traitement pour les troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, on garde ces troubles-là.
On apprend à vivre avec. On les surmonte.
En général, on s'adapte, on met en place des adaptations, mais on ne guérit pas.
Tania vous dit, mon enfant de 7 ans tient très mal ses cahiers et l'écriture est très lente. Dois-je m'inquiéter d'une dyslexie ou d'une dysgraphie ?
Pour reprendre un petit peu les signes d'alerte qu'on avait tout à l'heure, si on observe effectivement un écart persistant entre son niveau et celui des autres enfants, et puis surtout des fautes qui sont plus de son âge malgré un travail important dans des conditions optimales, là effectivement ça peut valoir le coup de rencontrer un ou une professionnelle pour faire le point, en savoir plus. Là dans son cas à lui, vu qu'il s'agit du geste moteur, en priorité on va penser à la psychomotricité ou à l'ergothérapie.
D'accord. En l'occurrence, sa maîtresse peut vraiment nous dire s'il est en décalage par rapport aux autres.
Voilà. En fait, les enseignants, c'est hyper important parce qu'ils vont avoir ce regard-là de dire « j'ai vraiment l'impression que… » Et puis, on va ensuite se tourner vers les pros de santé pour avoir des bilans cotés avec des chiffres où là, vraiment, on peut comparer. Notamment quand on parle des 18 mois d'écart, ben, faut qu'on puisse les objectiver. Mais c'est un travail d'équipe, en fait. Mmh. Il y a toute une chaîne.
Alexandra, ma fille de 10 ans est dyslexique et dysorthographique. Elle a du mal à apprendre et à retenir ses leçons. Est-ce que cela peut s'expliquer par ces deux 10?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les deux sont étroitement liés. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va venir. Pour rappel, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça veut dire que c'est une mise en place atypique des circuits cérébraux pendant le développement. Donc, effectivement, on peut tout à fait imaginer que ça vienne s'exprimer dans différents domaines et puis que ça ait un impact chez une seule et même personne.
Guillaume vous demande s'il existe des établissements scolaires. C'est un petit problème, moi. Orthophoniste, peut-être.
Oui, on se retrouve à la fin de l'émission, pas de problème.
Voilà. Est-ce qu'il existe des établissements scolaires spécifiques pour les enfants atteints de troubles 10?
Oui, alors ça existe.
Il n'y a pas des caisses, non? Il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est compliqué.
Il
n'y
en a pas énormément. Ça existe. On peut penser notamment aux écoles CEREN, qui sont des écoles spécialement adaptées aux besoins spécifiques des élèves 10, avec, par exemple, on va retrouver des effectifs réduits dans les classes. Et c'est des écoles qui vont, les écoles CEREN, du CE2 à la 3e. C'est plutôt en région parisienne et à Lyon, mais on peut retrouver du même type dans d'autres régions. Après, on peut toujours être scolarisé en école publique avec des aménagements, soit un PAP, donc le programme d'accompagnement personnalisé, soit on peut intégrer une classe ULIS au sein de l'établissement.
Cynthia nous dit « Ma fille est une grande prématurée, y a-t-il des risques qu'elle ait des troubles de l'apprentissage plus tard ?»
La prématurité, c'est jamais trop une bonne nouvelle concernant les facteurs de risque, malheureusement. En général, ça a un impact et là, effectivement, on estime à 30% environ le nombre d'enfants prématurés concernés par les troubles cognitifs dont font partie les troubles 10. Mais évidemment, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est prématurément.
30%. Ouais, c'est bon. On parle sur les grands prématurés ou sur les prématurés tout court?
Moi, j'avais la stat sur les prématurés. Mais évidemment, c'est troubles cognitifs tout confondus dont font partie les troubles 10. Mais c'est vrai que très souvent...
Mais il y a des troubles plus légers aussi, j'imagine, dans ces 30%.
Bien sûr, oui, ouais, toujours.
Laure vous dit « Mon fils de 11 ans vient d'être diagnostiqué dyspraxique. Quel type de prise en charge faut-il pour lui ?»
En général, on recommande souvent des prises en charge pluridisciplinaires. Donc là, effectivement, on va penser en priorité à l'ergothérapie, à la psychomotricité, parce que ça concerne le geste moteur. Mais il se peut tout à fait que ces professionnels-là choisissent de réorienter vers d'autres professionnels de santé en parallèle. Et bien sûr, toujours au maximum, on intègre l'entourage de l'enfant au maximum dans la prise en charge aussi.
L'ergothérapie, c'est une profession qui est nouvelle ou pas? Parce que moi, ça fait peu de temps que j'en ai entendu parler.
Non, pas tant que ça. Alors, ça fait partie quand même des métiers relativement jeunes, un petit peu comme l'orthophonie. Mais on en entend de plus en plus parler. Et c'est bien.
C'est bien.
C'est top.
C'est quoi la dyspraxie?
La dyspraxie, du coup, c'est le trouble spécifique des apprentissages en lien avec le geste moteur. Donc, vraiment, on va être sur des difficultés à mettre en place les gestes. Mmh. Et on va avoir les mêmes symptômes que pour tous les autres troubles des apprentissages. Mais là, c'est vraiment focus geste moteur. Ouais. C'est des enfants qui passent souvent pour des enfants très maladroits, qui se blessent beaucoup, qui se prennent toutes les portes.
Les Pierre Richard, qui en fait ne sont pas des Pierre Richard,
exactement,
sont des dyspraxiques.
Exactement, exactement. Ouais.
Est-ce qu'un enfant qui se...
Non, mais j'allais dire, oui, par le sport, j'imagine qu'on peut faire de la thérapie par le sport pour les...
Oui, totalement. Bah, c'est vrai que dans un premier temps, ils peuvent être super gênés pour ça, pour faire la coordination, la danse, les trucs comme ça. Et... souvent,
les dyspraxiques, c'est ça?
Ouais, souvent, il y a beaucoup de moqueries et du coup, bah, ils lâchent l'affaire ou ils se sentent un petit peu exclus. Alors que je pense que justement, en leur proposant une aide adaptée, ils peuvent vraiment s'épanouir.
Mais est-ce qu'un enfant... je voulais demander si un enfant qui est, par exemple, très agité ou qui, en classe, qui, on dit un peu perturbateur, est-ce que ça ne peut pas être une façon de masquer un peu ces...
Si, souvent, de toute façon, dès qu'il y a des troubles, on va avoir effectivement soit des techniques un petit peu d'évitement ou des manières de se montrer autrement. En fait, quand on donne l'impression qu'on n'essaye pas, puisqu'on est juste mauvais élève, on est sûr de ne pas se tromper, vu qu'on n'a pas vraiment essayé, vu que de toute façon, on n'écoutait pas. Donc, on n'a pas raté parce qu'on était nul ou parce qu'on était bête, ce qui peut être leur crainte.
Bien sûr.
On a raté parce qu'on n'en avait pas envie. Et ça, c'est parfois une technique pour se protéger. Ouais.
Merci beaucoup à Marie Poirette et merci à Ryan d'être venu nous voir et raconter son histoire à Agathe Le Caron. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour, eh ben pourquoi ? Pour que les gens découvrent ce podcast et se disent en le découvrant « Mais dis donc, c'est intéressant, je vais aller écouter d'autres épisodes » et que nous, ensuite, on soit écoutés par des millions et des millions d'auditeurs et que ce podcast devienne un véritable phénomène de société. Car oui, c'est notre objectif. Voilà, allez, j'arrête, je vous saoule, je le sais, vous avez bien raison, on se retrouve demain, 9h30, France 2. Ciao tout le monde !